L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Tatiana Pavane, une artiste peintre italienne passée par New York et aujourd'hui installée à Strasbourg, est en cours de conversion au judaïsme. Et pour cela, nous avons décidé de l'inviter aujourd'hui dans les studios de Radio Judaïka pour qu'elle nous parle un petit peu de son parcours, de ses œuvres, de son inspiration. Tatiana Pavane, bonjour.
Bonjour Valérie, merci pour l'invitation.
Je vous en prie, nous étions rencontrés, on va être tout à fait honnête avec nos auditeurs, à la synagogue de Brumat, où vous exposiez vos œuvres à l'occasion des journées européennes du patrimoine juif. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours, parce qu'en fait il part un petit peu dans tous les sens. Vous avez une très belle trajectoire, et effectivement. Alors merci. Avant d'être artiste peintre, vous êtes styliste et diplômée d'une grande école parisienne, créatrice de vêtements dans votre boutique de la rue des Rosiers, c'est là où vous vendiez vos œuvres. Alors l'esthétique au cœur de votre ADN avant de passer à l'art et après vous allez parler de vos peintures et de vos sculptures également. C'est l'esthétique, ça a toujours été important pour vous, c'est quelque chose de quoi vous avez été nourrie déjà toute petite?
Ah oui, oui, écoutez, effectivement, alors je suis née en Italie et après j'ai fait des études secondaires en institut d'art à Turin et bac en poche, si j'ose dire, j'ai tenté ma chance à Paris. Donc ça a commencé comme ça mon aventure en France. J'avais fait un deal avec mes parents, pour tout vous dire. J'avais dit, à l'époque, je ne parlais pas français. Et Paris faisait rêver parce que je voulais étudier la mode, l'art. Et ça vient probablement de mes grands-parents, aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père. J'ai eu deux grands-mères qui faisaient la couture, qui dessinaient. Elles avaient une fibre artistique. Et c'est vrai que j'ai eu, dans mon enfance, une grande liberté de pouvoir exprimer mon envie de dessiner depuis toute petite. Donc, d'où l'idée de faire un institut d'art plutôt qu'un lycée littéraire ou scientifique. Donc, scientifique, je n'étais pas douée, je pense. Et voilà, donc à l'âge de 18 ans, à vrai dire 17 ans et demi, puisqu'on finit un petit peu avant l'institut d'art, j'ai voulu tenter de passer les concours des grandes écoles à Paris. Alors, mes parents, ils m'ont dit, écoute, essaye, tu ne parles pas français, tu ne connais pas Paris.
Vous ne parlez pas français du tout? Vous avez fait quelques cours à l'école avant?
Du tout. Alors, entre la prise de décision, la validation de mes parents, j'ai quand même pris des cours privés pendant 3 semaines en été. Pour essayer de connaître au moins des mots de base. Et donc, de toute façon, je savais que les concours des grandes écoles étaient surtout basés sur des épreuves artistiques. Il n'y avait pas forcément besoin de parler ou d'écrire quoi que ce soit. Mais en fait, il y avait une épreuve écrite d'histoire de l'art. Donc, je me suis présentée à 3 grandes écoles parisiennes où il y avait beaucoup, beaucoup de candidats pour entrer. Notamment dans l'école où j'ai fait ensuite mes débuts en école supérieure, il y avait parmi les questions en histoire de l'art, il y avait une question que j'aurais dû savoir parfaitement répondre. D'abord, je suis arrivée à l'époque, on n'avait pas encore Internet partout et on ne pouvait surtout pas arriver avec son téléphone ou son ordinateur pour écrire ou pour l'examen. Donc, je suis arrivée et j'étais la seule avec un énorme dictionnaire français-italien sous le bras. Donc déjà, j'avais attiré l'attention avec ça. Et puis, j'ai essayé d'écrire au maximum sur cette épreuve d'histoire de l'art. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une question où moi, j'ai cru répondre correctement. Mais après, je peux vous raconter, je ne suis pas très fière, mais elle est drôle quand même, c'était une anecdote. La question était... le mot Sixtine, qu'est-ce qu'évoque en vous? Et moi, j'ai pensé, Sixtine, ça m'évoque numéro 16 en anglais. Et j'ai écrit fièrement ça. Une italienne, je suis italienne.
Je pense à la chapelle, tout de suite.
Eh bien oui.
Oui, c'est ça.
Mais pas moi. Moi, j'ai pensé au numéro 16. Et donc, le professeur parmi le jury, quand j'ai été quand même reçue à cet examen, il a dit, il y a quand même, j'aimerais par curiosité savoir qui est la personne qui a pensé au numéro 16 en anglais, parce que ça, il fallait y penser quand même. Et donc, j'ai timidement levé le bras pour dire « c'est moi ». Alors, quand il a su que j'étais italienne en plus, il m'a dit « mais vraiment, heureusement que les autres épreuves elles étaient correctes, parce que franchement, il faut être un peu artiste pour penser à des choses pareilles
bon, ». Vous avez été reçue, vous avez fait l'école, vous avez eu votre diplôme avec mention à la sortie de l'école.
Oui.
Vous avez ensuite... créer vos robes, des robes de soirée plutôt.
Alors, en fait, quand j'ai fini l'école, ils sont venus me choisir directement au jury. Donc, avant de créer ma propre ligne, j'ai été choisie par une grande maison, on peut le dire. Hein. C'était à l'époque Madame Riquel qui avait envoyé sa fille Nathalie pour faire part du jury. Donc j'ai été sélectionnée par elle. Et donc j'ai commencé ma carrière de styliste, spécialisation maille, directement au sein de cette maison. Pendant quelques mois, en fait, donc je n'avais pas encore le diplôme imprimé, que je travaillais. Et c'est comme ça que je suis restée aussi à Paris. Et voilà, donc ça a été un bon début de carrière. Au bout de quelques temps, effectivement, pour une styliste, c'est bien de changer de maison aussi, de voir différents horizons.
Alors, vous êtes styliste, on l'entend, vous avez un regard artistique, vous créez, vous faites aussi la couture, vous avez aussi l'aspect technique de la fabrication d'un vêtement.
Ah oui, absolument. En fait, je suis styliste et modéliste. Voilà,
modéliste, donc, c'est pour les chapeaux, alors.
Non, modéliste. Modéliste, c'est pas modiste.
D'accord. Autant. Oui, vous faites bien de rectifier.
Ce sont deux métiers différents. La modéliste, c'est celle qui sait faire des patronages. Et une fois qu'on fait le patronage, on donne à la couturière pour coudre et assembler. Et donc, mon métier consiste vraiment à corriger aussi les prototypes une fois réalisés. Mais je sais tout faire.
Alors, cette carrière de styliste, elle va continuer un moment. Vous allez beaucoup voyager. À quel moment la peinture est entrée dans votre vie jusqu'à partir ? Vivre à New York, alors j'imagine New York, vous avez été attirée par cette ville qui vit jour et nuit.
Alors, effectivement, j'ai fait beaucoup de choses dans la mode, jusqu'à aller en Chine, entre parenthèses, où on m'a... Enfin, j'ai été fière puisque je voulais aller en Chine et voir cette réalité en tant que styliste. Et puis un jour, pour tout vous dire, j'étais fatiguée parce que de Paris jusqu'à Canton, dans la zone industrielle où j'ai travaillé, il y avait 14 heures de vol en avion. Et j'y allais très très souvent, si bien que j'étais vraiment très fatiguée. Et un jour j'ai pensé, et si je faisais un break, moi qui ai toujours dessiné et peint, entre Paris et New York, il n'y a que 6 heures d'avion. Donc, peut-être aller voir comme ça. Et donc, j'ai attendu l'été pour prendre ma décision. Et je suis partie à Manhattan. Effectivement, 6 heures d'avion. Beaucoup plus relax que 14 heures. Et j'ai cherché un appartement. J'ai cherché des cours d'anglais aussi parce qu'il fallait...
Vous ne maîtrisiez pas la langue encore une fois ?
Si, un petit peu. Non, quand même, l'anglais, je l'ai étudié à l'école, alors que le français, pas du tout. Mais quand même, on a toujours besoin de s'améliorer en anglais. Surtout que l'accent américain ou new-yorkais est encore très différent de celui qu'on apprend à l'école. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je suis arrivée dans une école très sympathique d'adultes. Hein. C'était des cours le matin. Et l'après-midi, à New York, surtout à Manhattan, les appartements sont plutôt petits. Et du coup, j'ai cherché à partager un atelier. Et là, j'ai trouvé une jeune japonaise qui était illustratrice pour des livres, qui cherchait à partager un local, une Union Square, donc vraiment au centre de Manhattan. Et j'ai été la voir, et voilà, on a pris ce local. Et ça a été une colocation artistique pendant 3 ans. Fantastique, je dois dire, vraiment, c'était très, très bien rythmé, notre temps. Elle faisait d'un côté ses illustrations pour les livres, et moi, j'ai commencé à faire mon portfolio, c'est-à-dire une série de toiles, huile sur toile. Voilà.
Les toiles. Alors justement, c'est important de parler de ce travail-là. C'est ce qui nous amène jusqu'au judaïsme. Alors, des toiles autour de la vie juive, des principaux moments importants, oui, de la vie juive. Vous n'étiez pas juive à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce que vous aviez envie, vous, de peindre pour peut-être se rapprocher justement du judaïsme avant votre conversion?
Alors, effectivement, j'ai des origines juives du côté père. Et pour moi, le judaïsme a toujours été une part importante de moi. En arrivant à New York, je n'avais pas du tout pensé à peindre ce thème. Mais c'est au cours d'une soirée, ça devait être la veille de Rosh Hashanah. Enfin bon, je me souviens plus exactement, mais comme vous le savez très bien, à New York, il y a beaucoup de juifs. Et donc, un soir, en remontant Madison Avenue, qui est une très grande avenue, j'ai commencé à voir sur toute cette avenue beaucoup de signes juifs. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais peindre les moments forts de la vie juive. Ce serait une belle inspiration. Et donc, je suis rentrée de mon atelier et j'ai commencé à faire une toile inspirée de photos. Puis je suis allée chercher de la documentation. J'ai trouvé des vieilles photos en noir et blanc dans une librairie juive. Et puis, plus j'avançais dans cette recherche, plus je me sentais juive.
Ce qui n'avait pas été avant le cas, vous n'aviez pas ce sentiment d'appartenance, même si, à travers votre père, vous connaissiez peut-être certains aspects?
Si, je me suis toujours sentie juive, mais pas au point de l'exprimer d'une voix artistique. Là, vraiment, j'ai ressenti le besoin d'exprimer quelque chose, un visuel. Et comme j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai pas fait d'école pour peindre, hein, c'est plutôt autodidacte pour le coup. Je me suis dit, je vais préparer les toiles, je vais préparer les fonds, je vais mettre de la feuille d'or, je vais mettre de la feuille d'argent, je vais donner de la valeur à ce que je vais faire. Et puis, que ça plaise ou pas, je le fais pour moi. Et donc, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que cette énergie new-yorkaise de voir tant de juifs libres, pas besoin de se cacher, enfin, on parle de, c'était 2010, ça a changé un peu malheureusement depuis, mais voilà, donc ça m'a beaucoup aidée et ça m'a tellement plu que alors j'en ai fait une série. J'ai fait toute la série des moments forts de la bar mitzvah, de Matzmaout, du mariage. Voilà, c'est
Et vous avez suivi, vous, la vie juive, justement, différents événements, des cérémonies officielles pour vous inspirer, justement, de cette vie juive?
Oui, alors, pas tant que ça. J'ai été invitée 2 fois à des mariages juifs. dans différentes villes. Et d'ailleurs, un mariage ashkenaz et un mariage séfarade, ce qui est très différent l'un de l'autre, avec des coutumes très différentes. J'ai eu la chance d'être invitée une fois pour une Brit Mila. Et voilà, comme autre cérémonie, non, pas autre chose. Après, quand j'étais petite, je vivais beaucoup la fête de Hanouka, où j'attendais mon petit cadeau qui derrière la porte. Souvent, c'était une petite pièce, c'était une pièce de monnaie. C'était pas vraiment un cadeau, mais bon.
Donc, cette vie juive qui a commencé à New York, que vous avez exprimée à travers vos peintures, quel est le chemin que vous avez parcouru pour venir jusqu'à nous, ici, aujourd'hui, à Strasbourg, et entamer une conversion?
Alors là, pour être honnête, c'est une véritable surprise, même pour moi, parce que je n'avais pas du tout pensé à Strasbourg. C'est un peu le hasard. Il se trouve qu'en 2019, quand le Covid a commencé, j'étais un peu stoppée sur ma vie d'artiste et de styliste, puisqu'on ne pouvait plus voyager. En 2020, vraiment avec l'épidémie, c'était très difficile. Et du coup, je me suis dit, il y a eu des événements aussi un peu tragique de ma famille. Du coup, je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi et c'est peut-être le moment est venu pour faire une vraie conversion orthodoxe dans les règles de l'art. Et pour cela, je me suis dit, quoi de mieux de retourner en Italie. Donc, je suis rentrée chez moi en Italie, près de mes parents. Et à Turin, il faut savoir, il y a une grande choule et il y a sur le papier, en tout cas, beaucoup d'inscrits à cette communauté. Donc, c'est une grande communauté, apparemment. Donc, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller là-bas. Donc, je suis allée là-bas, je me suis présentée au rabbin en fonction à l'époque, et je lui ai dit, monsieur Rabbin, je voudrais entreprendre une vraie conversion, c'est mûri depuis longtemps, parce que ça fait des années que je voudrais faire ce parcours, mais j'ai jamais eu le temps, je me suis jamais donné le temps. Il faut se donner le temps pour ça. Hein. Et donc, il m'a dit, écoutez, venez fréquenter, il n'y a pas de souci. Ça ne me donnait aucune explication ni rien. Au bout de quasiment un an, avec des interdictions, parce qu'on était avec les masques, tantôt il y avait office, tantôt il n'y avait pas, c'était compliqué. Mais enfin, je me suis fait connaître au sein de la communauté tourinoise. Et au bout d'un an, je lui ai dit, comment ça se passe pour les examens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi, je veux avancer quand même. Et là-dessous, il me dit, écoutez, c'est simple, ici, on n'est pas du tout équipé. Déjà, vous voyez notre petite communauté. C'est vrai que c'est une communauté qui est mourante. C'est d'une tristesse, mais c'est comme ça. Il y a peu de fidèles. La plupart viennent pour les fêtes, mais ne fréquentent pas, même pas beaucoup pour le Shabbat. Et il m'a dit, écoutez, si vous voulez vous convertir, il faut aller voir le Dayan. Et je lui ai dit, mais il est où le Dayan? Il me dit, écoutez, le Dayan, il se trouve à Milan, à la ville de Milano. Et il faut prendre rendez-vous avec lui et discuter avec lui. J'ai dit, très bien, je prends rendez-vous tout de suite. On ne va pas traîner. Et donc, je me suis préparée. Au bout d'un mois, j'ai eu le rendez-vous. Donc, il faut savoir qu'entre Turin et Milan, il y a 2 heures de train pour y aller. Donc, je me suis préparée. Je pensais rencontrer un Dayan italien. Et à ma grande surprise, j'ai rencontré un Dayan israélien, très sympathique par ailleurs, qui exerce sa mission de Dayan une fois par mois. Il vient directement de Jérusalem. En fait, il habite dans un moshav près de Jérusalem. Il fait le voyage. Il vient à Milano et il s'occupe des dossiers de conversion, entre autres, hein, parce qu'il est Dayan, de toute l'Italie du Nord, tellement il y a peu de demandes. Donc, que ce soit de Venise à Turin, en passant par Milan et d'autres petites villes aux alentours, toute l'Italie du Nord est gérée par ce Dayan israélien. Donc déjà, vous voyez, c'était une grande surprise, ça. Et donc, je lui ai un peu raconté mon parcours, mes motivations, et je lui ai demandé surtout conseil, parce qu'en plus, moi, je voulais faire une conversion ashkénaze. Il faut savoir qu'en Italie, on n'est ni ashkénaze, ni séfarade. On est italtique, c'est-à-dire, entre les deux, on a notre rite à nous.
D'accord.
Mais il y a quand même une tendance plutôt séfarade que ashkénaze, soyons clairs. Même si en Italie du Nord, au niveau culinaire, on mange des choses plutôt ashkénazes, comme le schnitzel ou le cholent ou les lasques, tout ça, on les appelle autrement, mais c'est dans le menu ashkénaze. Et donc ce Dayan, il m'a écouté et puis à un moment donné, il m'a dit, écoutez, il ne faut pas rester en Italie, rentrez à Paris. Paris is good. Non, je lui ai dit non, quand même pas. J'en viens de Paris et je n'ai pas envie d'y retourner, surtout qu'il y a tout le temps des grèves, il y a tout le temps des actes.
Puis, vous êtes rentrée en Italie auprès de votre famille aussi à ce moment-là.
Oui, voilà. Donc, pourquoi revenir sur la France où il y a des actes antisémites et c'est beaucoup plus agité? Je ne voyais pas l'intérêt de rentrer à Paris. Et là-dessus, il m'a dit... Mais vous parlez français? Je dis, ah ben oui, oui, couramment maintenant. Hein. Ça y est, j'ai plus besoin de prendre des cours. Hein. Mais très bien. Mais alors, écoutez, si vous n'avez pas envie de rentrer à Paris, ben moi, je vous conseille Strasbourg. Alors là, de vraie parisienne d'adoption un peu snob, j'ai dit, Strasbourg.
La province.
Mais qu'est-ce qu'il y a à Strasbourg? Il m'a dit, mais non, mais il y a tout ce qu'il faut à Strasbourg. J'ai dit, ah bon, mais y a-t-il un Dayan? Il dit, oui, il y a un Dayan, il y a une grande communauté, il y a tout ce qu'il faut. Et en plus, c'est plutôt ashkénaze. Donc là, vous trouverez ce qu'il vous faut. J'ai dit, ah bon, alors attendez, je vais téléphoner tout de suite devant vous pour savoir si c'est vrai ou pas. Et c'est comme ça que j'ai téléphoné immédiatement pour savoir si c'était vrai, qu'il y avait tout ce qu'il fallait à Strasbourg.
Vous avez fait un consistoire ici à Strasbourg.
Oui. Et là, je suis tombée sur le Rav Chaim Cohen, qui très gentiment, il m'a dit, mais écoutez, madame, bien sûr, nous faisons les conversions, venez nous voir, et puis on verra, mais nous sommes équipés.
Et vous en êtes où aujourd'hui de cette conversion?
Mais Baruch Hashem, ça avance. Ça avance. Je dois signaler au passage que je suis très contente d'avoir découvert la belle et grande communauté juive de Strasbourg, qui est riche en culture. Le niveau est très élevé, et intellectuellement parlant. C'est un vrai bonheur. Elle est diversifiée aussi comme communauté, donc vraiment on en trouve pour tous les goûts, je trouve.
Et vous vivez ici à Strasbourg, et votre activité à Strasbourg, à part votre conversion?
Oui, alors je vis à Strasbourg, effectivement, ça a été compliqué de trouver un appartement à Strasbourg, hein, ce qui m'a amené dans une première partie de ma conversion à faire beaucoup d'allers-retours entre Paris et Strasbourg. Et puis finalement, j'ai trouvé un appartement qui me permet effectivement d'avancer dans la conversion et d'avancer et aussi de m'intégrer dans la communauté, puisque depuis bientôt 2 ans, je suis affiliée à une choule, j'ai ma petite communauté, on se connaît tous, je suis très souvent invitée, je vis vraiment dans la communauté, une vie juive à 100%, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau des habitudes, je me sens mais vraiment qu'est-ce qu'il a eu raison, le Dayan à Milan, de m'envoyer ici, alors que je n'y avais pas du tout pensé. C'était vraiment... On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est un hasard heureux, on va dire.
Tiziana Pavane, on arrive à la fin de cette interview. On a vu un petit peu votre parcours, votre parcours de vie, votre parcours professionnel, votre parcours spirituel. Moi, j'ai juste une dernière question un petit peu personnelle en lien justement parfois avec les préceptes un peu rigides du judaïsme. Et vous, votre folie, votre inspiration d'artiste, comment est-ce que vous faites concilier les deux ?
Ben, en fait, je suis quelqu'un qui adore mettre du tov dans tout ce que je fais, donc de la joie, de la bonne humeur, c'est mon caractère, je suis comme ça, peut-être un peu trop insouciante des fois, mais c'est mon moteur, et donc que ça se reflète dans mes peintures, par les couleurs, les personnages, les mouvements, j'adore peindre ça, et c'est aussi ma façon de vivre comme ça.
Tiziana Pavane, donc je rappelle à nos auditeurs, vous avez un site internet où on peut voir vos œuvres, vos sculptures également. Bah, c'est vrai que le temps imparti était un petit peu court. On a pris le temps de raconter un petit peu comment ça se passe. Un parcours de vie, c'était très intéressant également. Mais sur ce site, effectivement, on peut voir les femmes parapluies, les femmes tout en rondeur. Ce lien peut-être avec la mode, entre la sculpture et la mode. Et ces peintures de scènes, de fêtes, de la vie juive, tout en couleurs, tout en sourire. C'est toujours des toiles très positives. Il y a quelque chose que vous voulez transmettre. C'est justement ce que vous disiez. Ça ne fait pas peur, bien au contraire. C'est très, très accueillant et ça vous ressemble un petit peu. C'est un petit peu le but. En tous les cas, merci d'être passé nous voir ici dans les studios de Radio Judaïque à Strasbourg. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. On donnera les dates de vos expositions.
Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Viard.